Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h.
Si les choses continuent à ce rythme et qu'on prend aucune mesure, on ne sera pas en mesure de soigner tout le monde.
Les services hospitaliers de Martinique, au bord de la saturation, à partir de 19h ce soir et pour 3 semaines, l'île se reconfine pour tenter de stopper la flambée de l'épidémie de Covid. C'est le traditionnel chassé-croisé de l'été. Entre juilletistes et haoussiens, il y aura du monde sur les routes, dans les gares et dans les aéroports. Aujourd'hui, du monde aussi dans les gîtes qui affichent complet cet été. La directrice générale des Gîtes de France, notre invitée dans ce journal. Un an après son entrée au gouvernement, Alain Griset, convoqué devant la justice. Le ministre chargé des PME sera jugé en septembre pour avoir omis de déclarer tout son patrimoine. Et puis les JO de Tokyo, avec une énorme désillusion, défaite de Teddy Riner en quart de finale en judo. À suivre, l'éclairage éco d'Emmanuel Duteil. Qu'est-ce qui pousse Volkswagen à mettre la main sur le loueur de voitures Europcar? Votre conseil santé avec le docteur Brigitte Milot. Et puis le journal des JO d'Axel May, point complet sur les épreuves encore en cours. Très bon réveil, il est 7h01. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. C'est un signe révélateur, preuve que l'épidémie remonte en flèche. Le cap des 1000 patients hospitalisés en réanimation a été dépassé hier. Pour limiter la propagation du virus, la Martinique se reconfine dès ce soir 19h. La situation sur place est jugée dramatique par le Premier ministre Jean Castex. Les services hospitaliers sont au bord de la saturation. Reportage sur place de Florent Aussu.
Les 30 lits disponibles en réa Covid sont désormais tous occupés. Et le CHU de Martinique ne dispose pas des moyens humains pour en ouvrir d'autres. Benjamin Garel, le directeur du CHU de Martinique.
On essaie toujours de pousser les murs et on dégrade un petit peu la prise en charge. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment clé en réanimation, c'est l'encadrement des patients. De base, on met 2 patients pour une infirmière. On est en train de monter à 3 patients par infirmière. Et là, on va peut-être passer pour certaines à 4.
Cette explosion du nombre de contaminations finit d'achever des équipes médicales déjà au bout du rouleau, comme Maëva, infirmière en réanimation.
Nous, on n'a jamais arrêté, donc là aujourd'hui on est à la 4e vague, sauf que pour nous c'est depuis le mars 2020 que ça dure et qu'on n'a jamais pu vraiment fermer l'unité de réanimation Covid, quand bien même on avait jusqu'à 1 patient.
Chaque jour, près d'une 30aine de patients Covid arrivent aux urgences de l'hôpital. Le professeur Hossein Medaoui, chef de pôle réanimation, craint désormais une catastrophe.
Si les choses continuent à ce rythme et qu'on prend aucune mesure, on ne sera pas en mesure de soigner tout le monde.
En seulement 4 semaines, le nombre d'hospitalisations quotidiennes a été multiplié par 10 au CHU de Martinique.
Florin Aussu pour Europe 1. Et dès demain, 3 premiers patients seront transférés de Fort-de-France vers Paris pour soulager les services hospitaliers.
Aux États-Unis aussi, Émilie Dez, le nombre de contaminations repart à la hausse.
Joe Biden, qui avait promis un été de liberté, est en train de revoir sa copie. Le président américain a annoncé hier toute une série de mesures pour relancer la vaccination.
Il est temps d'imposer des exigences à des groupes clés pour s'assurer qu'ils sont vaccinés. Il sera demandé à tous les fonctionnaires fédéraux d'attester de leur statut vaccinal. Tous ceux qui ne le feront pas ou qui ne sont pas vaccinés seront tenus de porter le masque, d'être testés 1 à 2 fois par semaine et de maintenir la distanciation sociale. De même, je demande à mon administration de prendre des mesures similaires pour les contractuels. Si vous voulez faire des affaires avec le gouvernement fédéral, faites vacciner vos employés.
L'État fédéral américain emploie 4 millions de personnes, dont 2 millions de civils.
Il est 7h04 sur Europe 1. Il y aura du monde donc aujourd'hui sur les routes, dans les gares et les aéroports traditionnels chassés-croisés qui débutent entre juilletistes et haoussiens.
La journée est classée orange dans les 2 sens. Aujourd'hui, ce sera noir demain dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, rouge même sur un grand quart sud-est. Bison Futé recommande un départ dimanche. Ce sera plus calme sur les routes, mais orange tout de même. Idem lundi. Du monde aussi dans les gares avec près d'1 million de personnes attendu tout ce week-end.
Et avec la crise sanitaire, c'est cette fois-ci la France qui est privilégiée plus que jamais cette année pour les vacances. Ce que vous constatez notamment, Solange Escure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale des Gîtes de France, des gîtes qui affichent complet cet été. C'est des chiffres comme vous n'en avez jamais vu.
Tout à fait, ce sont des chiffres records. Nous avons un taux d'occupation sur le mois de juillet et sur le mois d'août qui est nettement supérieur à l'année 2019, qui est notre année de référence. Oui, donc une excellente fréquentation pour nos hébergements sur l'ensemble du territoire, hormis sur les dom-toms où c'est un peu moins.
Et quelles sont les régions justement les plus prisées, donc hormis les dom-toms?
Alors, Avec un tel taux d'occupation, c'est toute la France, hein, c'est un taux d'occupation homogène sur l'ensemble du territoire.
Est-ce que vous avez eu, je crois, beaucoup de réservations de dernière minute? Est-ce que l'extension du pass sanitaire vous a apporté encore un dernier boost, une nouvelle clientèle?
Alors, nos hébergements étaient déjà complets sur le mois de juillet. Donc, effectivement, on a des demandes de dernière minute, mais qu'on a du mal à satisfaire. Et les nouveaux hébergements que l'on agrée tous les jours, hein, puisque de nombreux propriétaires souhaitent rejoindre notre marque, sont loués en une journée pour le mois d'août. Et on a aussi un début de visibilité sur septembre et des réservations qui commencent pour le mois de septembre.
Et est-ce qu'il a fallu vous adapter peut-être en termes de personnel pour répondre à la demande de cet été ?
Tout à fait. Le téléphone a beaucoup sonné parce que même si les vacanciers regardent sur le site internet, ils ont besoin de réassurance, notamment par rapport aux conditions du protocole sanitaire, aux conditions d'annulation s'il y avait un nouveau confinement, et puis des questions ces derniers jours sur le pass sanitaire. Donc oui, beaucoup d'appels, et sur une période où bien, nous aussi, nous prenons quelques jours de vacances.
Ben oui,
c'est
bien.
Vrai qu'il y a eu un afflux d'appels, dans tous les départements.
Et une dernière question, Solange Lescure. Est-ce que vous pensez que la crise va changer durablement les habitudes des Français et donc que la demande pour les gîtes va se pérenniser, ou est-ce qu'une fois la crise sanitaire passée, vous craignez de retrouver une fréquentation plus classique ?
Non, je pense que c'est un mouvement qui va perdurer, parce que les Français redécouvrent la France, redécouvrent des vacances, que ce soit à la campagne, à la mer ou à la montagne, mais avec des vacances différentes. On est sur du slow tourisme, des vacances beaucoup plus humaines, avec du relationnel, avec nos propriétaires qui sont les ambassadeurs des territoires. Donc oui, moi je pense que ça va perdurer et que nous avons de belles années en perspective.
On vous les souhaite. En tout cas, merci beaucoup Solange Lescure, directrice générale des Gîtes de France. Merci d'avoir été l'invitée de ce journal sur Europe 1. Il est 7h07.
Un an à peine après son entrée au gouvernement, Alain Griset, le ministre chargé des PME, est convoqué devant la justice. Il sera jugé le 22 septembre prochain pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts. Et Gladys Laffitte, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
En fait, Alain Griset a omis de mentionner la somme de 171 000 euros lorsqu'il a dû remplir sa déclaration de patrimoine quand il est entré au gouvernement il y a maintenant un an. Cette somme correspond en fait à des participations financières détenues dans ce qu'on appelle un plan d'épargne en action, un PEA, ainsi que le compte espèce qui est associé. Il s'agit d'argent confié par la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services du Nord lorsqu'Alain Griset en était le président en 2019, une somme qu'il était censé faire fructifier sur ce PEA. Mais pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'est clair, il s'agit d'une confusion des patrimoines non conformes à la loi, et le fait de ne pas l'avoir déclaré avait pour but d'empêcher la révélation de faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d'abus de confiance. Une enquête parallèle est d'ailleurs toujours en cours à Lille. Alain Griset, lui, avait réfuté toute volonté d'enrichissement personnel. Il a remboursé cette somme peu après son entrée au gouvernement.
Gladys Laffitte.
À Paris, près de 450 sans-abris se sont installés dans des tentes sur la très chic et très touristique Place des Vosges.
Une initiative du collectif Réquisition qui réclame des conditions d'hébergement dignes et pérennes. Les sans-abri sont répartis en trois espaces. D'un côté les familles, de l'autre les hommes seuls et les mineurs isolés. Océane Théard s'est rendue sur place.
Des dizaines de tentes collées les unes aux autres, entourées par des boutiques de luxe et des hôtels particuliers. La scène étonne Riede, un jeune touriste venu des Pays-Bas.
D'habitude, dans un tel quartier, un des quartiers les plus luxueux de la ville, avec toutes les grandes marques, elles ont toutes leurs magasins ici. Les gens pauvres, on ne les voit pas, mais ça ne m'embête pas du tout.
Un emplacement en plein cœur du Marais, loin d'avoir été choisi au hasard, comme l'explique Kéril Teria. Il est un des porte-parole de l'association Utopia 56.
Ces personnes qui vivent à la rue sont invisibles toute l'année. En général, elles sont réparties dans certains quartiers de Paris ou alors dans le nord de Paris, en banlieue nord, et complètement cachées. Le but, c'était aussi de pouvoir visibiliser dans un quartier un peu plus chic, entre guillemets.
Parmi ces invisibles, il y a Diatou, allongée dans sa tente, avec à côté d'elle tout ce qu'elle possède, un sac plastique avec un peu d'eau et de la nourriture.
Je ne sais plus où dormir. J'ai dormi dans les hôpitaux. Avant-hier, j'étais à la gare de Lyon. À 5 à 6 ans, c'est encore plus dur pour moi. Donc si je trouve là où dormir, ça va très bien.
Tous ont le même espoir, que le retentissement de cette action leur permette d'accéder plus vite à un logement pérenne.
Océane Théard.
C'est l'enfant prodige de la pop. Billie Eilish sort aujourd'hui un nouvel album 2 ans après le premier qui avait rencontré, on s'en souvient, un succès planétaire.
La chanteuse qui chante ses angoisses se dit être plus heureuse aujourd'hui, mais ses chansons sont toujours aussi profondes et témoignent encore de son anxiété et de ses amours déchus. Angèle Châtelier. You ain't nothing but a lost cause.
Tu n'es rien d'autre qu'une cause perdue. Et ce n'est plus comme avant, chante ici Billie Eilish dans Lost Cause, extrait de son nouvel album. Dans NDA, elle s'épanche sur les difficultés rencontrées quand on est célèbre. Des paroles loin d'être joyeuses, et pourtant, le deuxième album de Billie Eilish s'appelle Happier Than Ever, plus heureuse que jamais. Peut-être parce qu'elle a fini par accuser le coup d'être devenue en seulement 2 ans une star planétaire, aux dizaines de récompenses. À 19 ans, elle est aussi la première chanteuse née dans les années 2000 à être classée numéro 1 aux États-Unis.
Duh.
Depuis quelques mois, elle a également totalement changé de look, passant de ses cheveux verts et ses vêtements amples, meilleurs habits pour cacher ses failles, à une jeune femme blonde platine, glamour et apprêtée en une du magazine Vogue. Billie Eilish semble plus heureuse que jamais donc, mais ne renie pas pour autant dans ce deuxième disque ce qui a participé à son succès. Écrire des chansons sombres, aux mélodies ténébreuses, ce qui a fait d'elle la tête d'affiche de toute une jeune génération désenchantée. Pour preuve, son premier album s'était vendu à des millions d'exemplaires.
Angèle Châtelier.
Enfin, on termine à 7h11 avec un mot des JO de Tokyo. Émilie Dez et une énorme déception côté français ce matin.
L'élimination du judoka Teddy Riner dès les quarts de finale, Marie Guida.
Oui, il est passé à côté de son rendez-vous olympique après un début de compétition réussi. Le double tenant du titre a chuté dès les quarts de finale, battu au Golden Score par le numéro 1 mondial Bassa Cheaf. Le russe d'1m75 contre 2m03 pour Riner a su saisir l'opportunité pour déjouer les plans du français. Mais il faut dire que depuis sa victoire à Rio en 2016, Teddy Riner connaît des passages compliqués dans sa carrière. Il a accumulé les pépins physiques. Il était même blessé au genou depuis février dernier. Une blessure qu'il a souhaité cacher jusqu'au dernier moment. Teddy Riner n'a donc pas réussi son défi de revenir au plus haut niveau pour décrocher sa 3e médaille d'or. Même si la déception est immense, le judoka de 32 ans a encore la possibilité de décrocher une médaille de bronze au repêchage. Et en judo, toujours une petite éclaircie quand même ce matin. La judoka Romane Dico, elle, s'est qualifiée pour les demi-finales.
Marie Guida pour Europe.
Allez, on y croit pour le bronze. En tout cas, Teddy Riner, pas seul. Des illusions. Hein. Ça a été la collection pour les Français ce matin en BMX, en escrime. Point complet dans le journal des Jeux à 7h20 tout à l'heure avec Axel May.